Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Laure Grand-Besançon, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, c'est Serge Viguier. La gourmandise ce matin, c'est un article du Guardian d'avril 2014 dans lequel l'auteur de Fight Club, Chuck Palahniuk, je prononce à la française, sinon en anglais c'est Palahniuk, confie ses techniques contre l'insomnie. L'écrivain fait un exercice de visualisation assez particulier. Il imagine qu'il se bat et qu'il perd. Gagner le combat serait trop excitant et le maintiendrait éveillé. Il faut donc se mettre dans la peau du perdant pour pouvoir s'endormir. Palahniuk cite une étude avançant que le taux de testostérone des boxeurs et lutteurs vaincus chute considérablement à la fin des matchs et que le ralentissement de leur métabolisme se produirait afin de les empêcher de prendre part à un nouveau combat avant d'avoir récupéré. Nous mettrons le lien vers l'article sur le site de l'émission. Écrivain, traducteur et éditeur singulier, notre apothicaire de l'âme entretient avec le verbe un rapport obsessionnel et quasi charnel. À 11 ans, on lui offre une machine à écrire et de 11 à 15, il rédige des romans fantastiques nullissimes, je le cite, qu'il donne à relier à sa tante dont c'est le métier. Après des études de lettres et 3 ans dans une librairie, il devient correcteur pour Le Seuil, publie son premier roman et laisse tant de commentaires en marge des manuscrits qu'on lui confie qu'il s'impose bientôt comme traducteur. Il interprète les esprits malades et fascinants des grands écrivains de la littérature anglo-saxonne contemporaine, Hubert Selby Jr., Thomas Pynchon, Alan Moore, Denise Cooper, Salman Rushdie, Mark Z. Danielewski ou William Howard Glass. Mais il y a aussi du Margaret Thatcher et du David Duchovny si on cherche bien. Membre du collectif Inculte, Démiurge, Électrique et Baroque co-dirige également la collection de fiction américaine Lo 49 aux éditions Le Cherche Midi. Il est aussi l'auteur d'une œuvre expérimentale, bouillonnante et hallucinatoire. Bonjour Claro.
Bonjour.
Je vais vous poser la question rituelle de cette émission, Claro, mais dans votre dernier roman Substance, paru chez Actes Sud, il y a cette phrase qui m'a frappée. Le héros se dit qu'il ne peut rester dans cet entre-deux, ni joyeusement mort, ni tristement vivant. Donc la question, Claro, c'est quel est votre rapport à la mélancolie et est-ce qu'on peut le déceler dans cette phrase ?
Non, je pense pas. Moi, je ne pense pas être... être concerné, on va dire, par la mélancolie. Alors, évidemment, on peut l'entendre dans plusieurs sens, mais je pense qu'il faut avoir peut-être du temps pour être mélancolique. Et on va dire, pour moi, le temps est une denrée un peu pas rare mais précieuse, et que voilà, donc j'ai pas le temps de déprimer, j'ai pas le temps d'être triste. Ça serait du, enfin, même si j'avais le temps, ce serait difficile parce que j'ai quand même plusieurs activités qui sont des activités qui mettent en joie. Hein. C'est assez rare d'avoir la chance de faire ce qu'on aime, donc c'est pas du tout des choses qui pourraient me tirer vers le bas. Donc non, la mélancolie, enfin, je vois très bien ce que c'est, mais en tout cas, elle m'évite, on va dire.
Et ça a toujours été le cas, Claro, ou est-ce que c'est un progrès ?
Non, je pense que j'ai... Ouais, après, il y a des formes de mélancolie adolescente auxquelles personne n'échappe, mais on va dire que très vite, les livres m'ont permis de, voilà, de fausser compagnie à l'ennui.
Ça vous arrive de pleurer en lisant un livre ou en écrivant quelque chose qui vous émeut ?
Non, je ne suis pas encore à ce stade de sénilité.
Oh, vous exagérez, c'est pas toujours de la sénilité. Ça peut être de la sensibilité, simplement.
Non, mais par rapport à ce que j'écris, si ce que j'écrivais me faisait pleurer... Enfin, si, des fois, ça peut me faire pleurer, parce que je trouve ça très mauvais, mais c'est encore un autre chose.
D'accord, donc ce sont des larmes saines.
Voilà.
Bon, j'annonce le sommaire des jouissances. Dans quelques instants, vous allez convoquer deux Michel différents, le chanteur Oldelaf, Flaubert Deleuze, Paolo Uccello, et de la cuisine, juste après un morceau de la playlist Inter, All the Good Girls Go to Hell, de Billie Eilish.
My Lucifer is lonely, standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence.
distance. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside, I've got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie du traducteur et écrivain Claro.
Cigarette ?
Non, merci, je ne fume pas. Je n'arrive pas à aimer cela.
Quel dommage pourtant fumer des temps. Surtout lors de ton travail.
Je sais, j'enrage. Ne pas fumer me tue. Je vais réessayer, je vous le promets. Jolie voiture. Dommage qu'elle soit si sale.
Il y a beaucoup de poussière dans notre pays.
Ah, c'est moins qu'on puisse dire. Que je te trimballe des poules, que je te trimballe des pastèques. Ceci dit, c'est sympathique, au fond.
Sympathique. Sympathique. L'Égypte a régné sur le monde pendant plus de 2000 ans. Nous avons inventé l'astronomie, les mathématiques. Nos architectes ont construit des sanctuaires dont vos archéologues s'échinent encore à découvrir l'entrée. Monsieur Bonisseur de la Batte.
2006, OSS 117, Le Caire, Nid d'espions, adaptation libre des romans d'espionnage de Jean Bruce par Michel Hazanavicius et le scénariste Jean-François Alain. Un film dans lequel Jean Dujardin campe un agent misogyne, colonialiste et homophobe. Et dans ce film, c'est pas grave. Pourquoi, selon vous, Claro ?
C'est pas grave parce qu'il y a une distance dans le temps qui nous fait croire que ce sont des choses du passé, mais je pense qu'il y a quand même 80% des hommes qui doivent être un peu comme ça encore. Après, bon, c'est vrai que c'est dans l'excès, donc c'est assez drôle, mais moi, j'ai une amitié particulière pour ce film parce que un de mes fils l'avait vu et l'a tellement aimé que je crois qu'il connaît toutes les phrases par cœur. Et donc, voilà, ça fait plus de 10 ans que tous les jours on entend toutes les répliques d'OSS qu'il arrive à recaser dans toutes les situations.
OSS, c'est une comédie pastiche truffée de références. Et vous, Claro, vous aimez beaucoup les détournements, les références. Vous êtes emparé, par exemple, du mythe de Méduse, du magicien d'Oz, d'Emma Bovary. Est-ce que ça a un lien avec ce choix ou pas du tout?
Ah bah je pense que j'aurais pu écrire un roman d'espionnage avec un personnage pareil. Mais oui, c'est vrai que je pars souvent pas forcément d'une histoire, mais en tout cas d'un quelque chose qui m'apparaît comme un motif dont je me dis qu'on peut le modeler différemment.
Qu'on me loue enfin ce tombeau, blanchi à la chaux, avec les lignes du ciment en relief, très loin sous terre. Je m'accoude à la table. La lampe éclaire très vivement ces journaux que je suis idiot de relire, ces livres sans intérêt. Aux heures d'amertume, je m'imagine des boules de saphir, de métal. Je suis maître du silence. pourquoi une apparence de soupirail blêmirait-elle au coin de la voûte ?
Laure Grand-Besançon lit un extrait du poème de Rimbaud Enfance 5 qu'on trouve dans le recueil Illumination et qui comporte votre citation consolatoire. Claro, pourquoi une apparence de soupirail ne blêmirait-elle pas au coin de la voûte ? C'est un vers final assez énigmatique. Plusieurs interprétations parmi les commentateurs. Comment vous, vous l'entendez ?
En fait, je l'entends pas du tout pour son sens. Je sais que quand j'ai découvert Rimbaud, il y a plein de phrases qui me sont restées. Mais en général, j'ai pas non plus une grande mémoire, je m'exerce pas à retenir. Mais cette phrase m'est restée. Je pense pas forcément pour son sens, qui est forcément un petit peu obscur, malgré le thème, mais parce qu'elle a une scansion qui s'inscrit. C'est ce que j'aime bien dans la poésie, c'est que les phrases, même parfois juste des mots, c'est des choses qu'on découvre tôt, rentrent dans votre ADN après quand vous devenez écrivain, etc. Par exemple, je sais que voilà, si je vois le mot soupirail, ben je pense à cette phrase de Rimbaud. Il y a plein de mots comme ça, et j'aime bien cette idée que même des mots simples, des mots triviaux, ils viennent d'un autre corps. Voilà, le mot soupirail, pour moi, il vient du corps de Rimbaud, des choses comme ça.
Les ingérez.
Et on les ingère malgré soi. Hein. C'est la espèce de puissance de pénétration rythmique comme ça de ces textes.
Et on sent dans votre œuvre, Claro, cette jouissance de la langue. On sent qu'il y a une musicalité très importante aussi. Parfois, vous êtes dans la narration pure, vous racontez les événements, et puis il y a des moments de jouissance pure, juste de beauté du verbe et de sonorité, de rythme.
Oui, parce que moi, ce que j'essaye de faire, c'est que la lecture devienne pour le lecteur quelque chose de très vivant, d'une expérience. C'est-à-dire, faut pas lui, même si on peut raconter une histoire, il faut pas qu'il oublie que c'est un objet de langage, hein, qui a des jeux avec des sonorités. Donc c'est vraiment un texte qui est écrit, et à la fois il peut décoller, on peut l'entendre dans la tête. Donc des fois, effectivement, je mets tous les moyens en jeu pour que c'est Paul Valéry qui disait quelque chose, j'ai lu il y a pas longtemps, très intéressant sur l'inspiration. On lui demandait s'il était inspiré, voilà, les muses, etc. Donc c'est pas du tout le style Paul Valéry. Il dit non, pour moi l'inspiration, elle n'est pas du côté du créateur, elle est du côté du lecteur. Et en fait, ce qu'il veut, c'est que le lecteur soit inspiré. Et j'aime bien cette idée de, justement, on déplace l'inspiration ou le souffle, l'aspiration, vers le lecteur pour que ça soit lui qui soit visité par quelque chose.
On peut lire vos textes à voix haute, comme le faisait Flaubert pour les siens.
Voilà, on peut les gueuler, et voilà, pas forcément dans le métro aux heures de pointe, mais
pourquoi pas. Cela dit, ça changerait.
Comme si on aurait de la place pour s'asseoir.
Oui. Je reviens à ce poème Enfance 5 de Rimbaud. C'est pas un poème anodin. Je sais que vous m'avez dit, Claro, que vous ne faisiez pas vraiment attention au sens de cette phrase, mais c'est un poème quand même sur l'acte créateur. En gros, Rimbaud dépeint le poète dans sa cave, et le poète en fait n'a pas besoin de lumière extérieure puisqu'il lui-même, il est son propre démiurge et il invente des sphères célestes, j'avais noté des boules de saphir et de métal. C'est l'acte créateur.
C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à l'oublier avec l'âge, mais c'est vrai que tout ce qui est de l'ordre de la création, de la découverte de l'art, donc de la découverte des formes, c'est nécessairement, 99% du temps, c'est lié à l'enfance. C'est-à-dire, voilà, on découvre l'écriture en même temps que la lecture quand on est enfant. Pareil, je suppose pour le dessin, la peinture. Donc, il y aura forcément tout le temps un enfant qui est prisonnier ou exilé, mais qui préexiste à l'acte créateur, je pense.
Il y a une dimension ludique dans votre écriture. Claro, même si je sais que vous vous êtes longtemps interdit l'humour dans vos romans, ça a été un palier. Il y a ce côté de l'enfance chez vous, dans votre écriture. Vous vous amusez. On sent que vous vous amusez en écrivant.
Je ne sais pas si je m'amuse, moi. En tout cas, j'essaye de laisser une place pour que le langage s'amuse. Je trouve que c'est toujours quand j'écris, c'est un équilibre entre un contrôle très très fort des motifs, des thèmes que je veux utiliser, des rythmiques, etc. Et à la fois un laisser aller aussi, c'est-à-dire que j'essaie d'écouter un peu le langage, ce qu'il essaye de dire, ce qu'il fait. Alors ça peut aller du jeu de mots potache à peut-être une allusion distinguée, mais en tout cas laisser plusieurs couches des fois se frictionner en même temps, quitte après, quand on retravaille un peu, à braser un petit peu certains côtés pour pas que ça soit non plus trop gratuit, mais en tout cas, à laisser le langage cabrioler, gambader, voilà.
Il y a presque un aspect surréaliste de laisser le hasard se faire aussi. Vous vous surprenez souvent quand vous écrivez, Claro ?
C'est pas moi qui me surprend, c'est le texte qui me surprend. C'est-à-dire que moi, je sais à peu près ce que je veux faire dans le texte, et souvent je vois que le texte fait des contre-propositions ou veut aller ailleurs, etc. Donc souvent je le laisse faire, et moi ce que j'aime dans l'écriture d'un livre, c'est le moment où en fait quelque chose déraille, et le projet qu'on avait, tout ce qu'on voulait mettre dedans, le livre est en train de dire non, ça m'intéresse pas, ça je préférais essayer ça. Je trouve que, parce que ça veut dire que c'est le moment où le livre cesse d'être mécanique, tout ce qu'on avait mis en comme un mécano, pour devenir quelque chose d'organique, qui est un organisme qui fonctionne comme ça par des phrases, des paragraphes, des chapitres, et puis voilà, il produit sa propre énergie, et du coup, il y a des choses qu'il accepte pas et d'autres, il fait des contre-propositions.
Derrière elle, des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde. Un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Claro, on vous a demandé deux chansons à l'écoute desquelles vous n'arrivez pas à être triste, même s'il semble que vous ne soyez pas souvent triste. La première a été composée par Michel Legrand en 68 et rendue célèbre par le film L'affaire Thomas Crown. On entend là la version française sortie un an après, interprétée par Michel Legrand avec des paroles signées Eddie Marnet, puisque vous me le demandez, et un air inspiré de Mozart, puisque c'est ce que vous alliez dire. Claro, est-ce que ce morceau est lié à quelque chose de significatif pour vous ?
Non, en fait, je voulais qu'on entende, parce que c'est toujours une façon de déclarer ma flamme à mon épouse. Mais non, ce que j'adore dans cette chanson, c'est que ce sont des vers de 7 pieds, ce qui est vraiment pas facile à faire.
Donc encore la musique, encore la mélodie.
Bah oui, et à la fois, ça fonctionne complètement, et du coup, ce vers de 7 pieds, donc c'est un impair, il y a quand même, à part Verlaine, tout le monde ne sait pas faire ça, arrive à devenir complètement hypnotique et à revenir comme ça en boucle. Voilà. En plus, après, il y a plein de raisons pour lesquelles j'aime cette chanson. J'aime parce qu'elle est double, elle a un équivalent en anglais, où les paroles ne sont pas tout à fait les mêmes, mais les paroles sont aussi très très belles en anglais, et elles résonnent beaucoup avec Au-dessous du volcan, par exemple.
Enfin, y a de Malcolm Lowry.
Il y a des choses comme ça très étonnantes. Donc c'est une chanson que je peux écouter. Vous savez, on a tous comme ça peut-être 5-6 chansons qu'on pourrait très bien écouter en boucle toute la journée, ou qu'on peut écouter pendant 40 ans sans s'enlacer, quoi.
Mais vous qui êtes un être de rythme apparemment, Claro, est-ce que vous percevez malgré tout la mélancolie inhérente à cette chanson ?
Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a une grosse différence évidemment entre si vous m'interrogez moi sur mon vécu mélancolique, et après une mélancolie qui est dans la représentation, qui est dans l'art.
Donc, ça peut induire un état chez vous ?
Non, parce que je trouve que là, c'est pas parce qu'on entend des choses mélancoliques que c'est qu'il y a un effet de forcément de porosité. Alors peut-être moins justement quand on parle de ces chansons qui sont encore utiliser l'expression, qui sont dans l'ADN. Au bout d'un moment, on les connaît tellement qu'en fait, ce qu'on écoute, ce n'est plus la chanson elle-même, c'est le retour, hein, c'est l'éternel retour.
Là, on parle de Nietzsche maintenant ou pas du tout?
On peut parler de Nietzsche, on pourra parler de Deleuze.
On va parler de Deleuze, et c'est ce n'est pas bande, une menace. Hein. Alors, vous avez un autre choix musical avant qu'on arrive à Deleuze. C'est un morceau de 2011 à l'air mélodieux, assez splinétique aussi, mais les paroles sont drôles. C'est la tristitude de Hold the Love, c'est la contraction de tristesse et de solitude. On va l'entendre, j'aimerais qu'on en parle juste avant de l'entendre. Est-ce qu'il y a une situation dans celle décrite dans laquelle vous vous reconnaissez, Claro?
Ah oui, moi, on va l'entendre, mais ce que je préfère, c'est quand il définit la tristitude comme marcher pieds nus sur un tout petit Lego. Ça me parle beaucoup.
Moi, j'aime beaucoup quand ton voisin t'annonce qu'il se met au saxo. Voilà. Eh bien, on l'écoute tout de suite, la tristitude, Hold the Love.
La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton père est suisse-allemand. Quand un copain t'appelle pour son déménagement. Et ça fait mal, la tristitude. C'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. C'est quand lors d'un voyage en Inde, tu bois de l'eau. Quand ton voisin t'annonce qu'il se met au saxo. Et ça fait mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu le détresse dans le creux de nos voix. La tristitude, c'est c'est wouh. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand t'es choisi pour être gardien au handball. Quand t'es pressé à la sécurité sociale. Quand samedi soir, c'est ta fille qui joue sur Canal. Et ça fait chier, la tristitude. C'est quand t'es le styliste de Catherine Lara. Quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. Quand des jeunes t'appellent monsieur pour la première fois. Et ça fait mal, 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 mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu le détresse dans le creux de la roi. La tristitude, c'est c'est wouh, c'est tout, c'est wouh, oh, c'est la vie qui te dit que ça n'a pas du tout. Non, 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 la tristitude, la tristitude, la tristitude te donne la tristitude, la tristitude te donne la tristitude, la tristitude.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de l'écrivain, traducteur et éditeur Claro. Toutes les références musicales sont à retrouver sur le site de l'émission. Je le dis pour les auditeurs parce qu'on nous écrit beaucoup, beaucoup chaque semaine pour nous demander les titres passés dans l'émission. Claro, vous avez choisi un sérum littéraire paru d'abord en feuilleton en 1856 dans la Revue de Paris. Un sérum qui, premièrement, touche au sublime et deuxièmement, de façon magistrale, rend le spleen risible. Il n'en est pourtant pas dépourvu. C'est Madame Bovary de Flaubert qui vous a d'ailleurs inspiré le roman Madman Bovary en 2011, dans lequel le héros s'engouffre quasi littéralement dans le texte de Flaubert. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec ce texte?
Oui, ça, je m'en rappelle très bien, parce que je pense que c'est le texte qui m'a fait entrer physiquement comme ça en littérature, comprendre, voir de l'intérieur, à pas voir ça juste comme un livre. On m'avait demandé de faire un exposé sur le temps de l'imparfait dans Madame Bovary, et donc j'avais commencé à le faire très bêtement en relevant tous les imparfaits. Puis évidemment le prof, qui était quand même gentil, m'a expliqué que c'était pas, il fallait pas juste relever pourquoi il y avait tout le temps l'imparfait, mais essayer de savoir pourquoi à tel moment il y avait de l'imparfait, etc. Et du coup j'ai vraiment eu un comme un flash, un moment où j'ai vu le quelque chose qui montait du texte, voilà, qui faisait que je voyais que c'était ce que c'était que la littérature, qu'il y avait une puissance et que ça fonctionnait autrement que effectivement l'histoire de d'une femme mélancolique qui se saoule à l'arsenic.
Dans une interview, Claro, vous dites que ce texte est un cours magistral de grammaire intérieure. Et au sujet de l'imparfait, vous dites qu'il l'utilise avec une cruauté fascinante.
J'ai dû être inspiré le jour où j'ai,
de l'interview.
J'ai dit ça. Ouais.
D'accord. Alors, Flaubert, c'est un génie qui travaille excessivement chacune de ses phrases. Et il avait dit, avant d'écrire ce livre, qu'il tentait de se guérir du cancer du lyrisme. Mais pourtant, il y a un certain lyrisme dans ce livre.
On sent qu'il lutte contre le lyrisme et surtout quand il le fait passer, en fait, il se dédouane en refilant, on va dire, la savonnette du lyrisme à ses personnages. Enfin, il se moque beaucoup de Madame Bovary qui dit Paul et Virginie, qui a des visions comme ça, même si évidemment lui est passé par là. Il n'est pas plus romantique et lyrique que Flaubert à 17 ans.
Et Flaubert n'est pas plus mélancolique non plus et dégoûté du monde, comme le monde sa correspondance. Mmh. Mais il y a quelque chose qui revient tout le temps dans sa correspondance, Claro, et ça ne m'étonnerait pas que ça vous plaise, c'est le mot grotesque. Mmh. Tout est grotesque pour lui. C'est peut-être sa façon justement d'habiter un monde trop cruel et décevant. Il voit le côté grotesque, risible, de toute situation.
Oui, je pense que c'est une façon de se protéger, comme il veut se consacrer entièrement à ce qu'il écrit et être enfermé dedans pour viser une forme de perfection. C'est vrai que quand on a cette attitude, tout peut paraître grotesque, etc. Lui, il voyait toujours les travers. Enfin, le dictionnaire des idées reçues, c'est justement ça, c'est une posture. C'est aussi, enfin bon, on voit bien dans sa correspondance, c'est quelqu'un qui jubile d'être contre tout, mais à la fois, enfin, c'est tout sauf un être négatif, hein, Flaubert. C'est quand même un être de pulsion de vie, ça se voit dans sa correspondance, que ça soit avec Sand ou avec d'autres gens. Enfin, il dit bandé, la vie, tout est là, quoi. Il est quand même du côté de la pulsion.
Oui, il y a des côtés même rabelaisiens dans sa correspondance.
Tout à fait.
Claro, je vais vous demander de nous lire un petit extrait. Et juste avant, est-ce que je peux vous soumettre l'une de mes phrases préférées de Flaubert dans ce livre ?
Allons-y.
C'est une comparaison, c'est à propos de Justin, l'apprenti du pharmacien Homais. C'est l'image que je trouve sublime.
En plus, que vous m'avez défini comme un apothicaire au début, c'est parfait.
Oui, mais bon, là, ça, il va vous arriver des bricoles dans cette phrase. La syncope de Justin durait encore et ses prunelles disparaissaient dans leur sclérotique pâle comme des fleurs bleues dans du lait. Pas mal.
Incroyable. Et à la fois, c'est très, très précis, hein, c'est technique. On sent qu'il a dû essayer même l'expérience pour voir ce qui se passait. Hein. Donc, je vais juste lire quelques lignes, quand même, ce début qui est absolument extraordinaire. Nous étions à l'étude, quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau, habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, puis se tournant vers le maître d'étude, « Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. » Il entre en cinquième. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, où l'appelle son âge. Mais en fait, c'est pas la peine d'en lire plus, parce que pour moi, c'est le plus grand tour de magie de la littérature.
Et alors pourquoi ? Parce que là, c'est l'introduction de Charles Bovary. Je vous disais, hors antenne, Claro, que moi, j'avais beaucoup de peine pour ce, parce que je trouve que c'est un brave type. Charles Bovary, il s'en prend plein la tronche. Et là, on va le voir pour la première fois.
Voilà. Mais en fait, la première chose qu'on devrait voir et qu'on ne voit pas et qui est le plus incroyable, c'est le premier mot. C'est quand il dit « nous étions à l'étude ». C'est-à-dire que, alors on sait par les brouillons que Flaubert, cette première page a été recommencée des centaines de fois, qu'il y avait d'autres entrées possibles, il a commencé par ça. Et en fait, il commence par un « nous », qui est un truc complètement incroyable et que personne ne remarque. C'est-à-dire que dans ce « nous », il y a donc un jeu, un narrateur qui serait là-dedans. En tout cas, il y a un collectif qui observe. Et le « nous » revient peut-être 5-6 fois dans le premier chapitre et puis va disparaître. Mais c'est quelque chose c'est comme un magicien. Donc il fait ça avec une main, il fait autre chose avec une autre main et personne ne le voit. Mais il a réussi à mettre un nous qui n'a pas de sens, qui ne reviendra jamais dans le roman. Il y a pas de narration à la première personne du singulier ou du pluriel. Et je trouve que ça c'est vraiment Flaubert et surtout la force de la littérature, c'est on fait une chose très très forte, mais de façon discrète.
Vous êtes intéressé à Houdini?
Ouais.
Claro, donc un grand faiseur de d'illusions. Est-ce que ça a un rapport justement là, vous parlez des ficelles du texte, vous déconstruisez tout. J'avais lu une interview où on disait que vous rentriez chaque soir chez vous avec 10 livres et vous les décortiquiez, mais vraiment comme une voiture, c'est-à-dire on ouvre le capot et puis on prend chaque outil, on regarde comment c'est fait.
Oui, il y a l'image du magicien ou du mécanicien qui sont assez proches. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment un tour de magie. C'est-à-dire qu'on fait forcément plusieurs choses en même temps. On va dire qu'on fait croire qu'on raconte une histoire, mais en fait, on est en train de travailler l'opposition passé simple imparfait, par exemple, chez Flaubert. On fait croire qu'on est lyrique, mais en fait, on va faire des choses complètement techniques ou scientifiques. Enfin, on fait toujours plusieurs choses. Il faut travailler le paragraphe, mais il faut aussi travailler le chapitre en même temps. Il faut faire des fausses pistes, etc. Il faut dire des choses, mais pas les dire. Enfin, c'est vraiment un travail de magicien dans l'écriture. Peut-être la mécanique est plus du côté du lecteur qui peut s'amuser des fois à déconstruire.
Il n'y a pas de bon concept sans un grand amour. Mais là, sans un grand amour, ça ne veut plus du tout dire intéressez-vous à ce que vous faites. C'est la moindre des choses, ça. Ça veut dire que les concepts ou les pensées que vous avez, quelles qu'elles soient, d'ordre scientifique, d'ordre philosophique, n'importe quel ordre, ne soient pas sans augmenter votre puissance d'exister et sans vous faire percevoir une multiplicité d'autres choses.
Le philosophe Gilles Deleuze à Vincennes en 1975. Claro, pour vous, sa pensée est un appui. J'ai l'impression que chez lui revient aussi cette idée de pulsion de vie, de vitesse, d'être aux aguets, de multiplicité aussi.
Ouais, mais on pourrait en fait repartir de la chanson La Tristitude, où on disait « Tristitude, c'est marcher pieds nus sur un tout petit Lego ». Et on pourrait modifier cette phrase et dire « La tristitude ou la mélancolie, c'est marcher pieds nus sur un tout petit ego ». Et ce que dit Deleuze, c'est justement l'inverse. Il faut, l'expression qu'il utilise, qui est augmenter la puissance, la puissance d'être, la puissance d'exister, ça c'est du
Spinoza.
C'est Spinoza, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que justement, c'est cette idée qu'il ne faut pas être tourné, parce qu'en fait, c'est pas soi-même atteint par quelque chose et on devient mélancolique ou triste ou agacé, bref, différents attributs. Ce sont ces attributs qui vont vous constituer comme être. C'est parce que je vais me laisser aller à quelque chose de mélancolique que je vais devenir un mélancolique. Et ben Deleuze, justement, pour lutter là-dessus, pour dire non, il faut chercher activement, et non plus de se laisser prendre passivement, des choses, hein, c'est ce que dit Spinoza aussi, qui peuvent augmenter, enfin chez Spinoza, c'est la joie. Voilà. Une joie au sens beaucoup plus large que la rigolade, hein, mais qui est, voilà, qu'est-ce que je peux trouver dans la vie pour justement des remèdes à la mélancolie, mais ce sont plus, ça va encore au-delà des remèdes. C'est un travail philosophique qui peut être aussi physique, érotique, artistique. C'est tout ce qui peut empêcher finalement le repli sur ce petit Lego qu'on prend pour soi.
Et c'est donc un effort dynamique, un choix.
C'est un travail. C'est un travail, donc un travail sur les formes.
Claro, quand vous avez acheté l'anti-Oedipe de Deleuze, et alors je ne sais jamais si on dit Guattari ou Guattari.
Moi je dis Guattari, mais je crois que les deux se disent.
Ça a été une claque pour vous et ça vous a mené vers Artaud.
Ça m'a mené vers Artaud et vers plein de choses. Je pense que je l'ai lu trop tôt, donc je n'avais pas du tout les outils philosophiques pour le comprendre, mais en revanche, je voyais que c'était un philosophe qui faisait beaucoup de références littéraires. Citait Artaud, on vient de le dire, mais aussi Beckett, Büchner. Et donc, en fait, moi, j'ai découvert pas mal d'auteurs à travers l'anti-Oedipe. Je me constituais très bêtement des bibliographies comme ça pour essayer de comprendre de quoi il parlait. Et donc, je suis tombé de, non pas de Caribe en Scylla, mais de Deleuze en Artaud.
Il y a une citation très belle de Deleuze sur la littérature. Il dit « Il y a toujours une joie indescriptible qui jaillit des grands livres, même quand ils parlent de choses laides, désespérantes ou terrifiantes. Tout grand livre opère déjà la transformation et fait la santé de demain. »
Oui, alors le problème c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y a pas, c'est pas nécessaire qu'il y ait beaucoup de grands livres comme ça. On pourrait se contenter de La recherche du temps perdu de Proust ou de, je sais pas, de l'Ulysse de Joyce, et ça serait déjà beaucoup. Mais c'est intéressant cette idée de santé qu'on peut aller puiser même dans des choses qu'on peut juger difformes ou extrêmes.
Oui, ou monstrueuse.
Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait la santé, c'est la forme. Alors, c'est pas vraiment un jeu de mots sur ce qu'on appelle la forme, mais c'est justement la forme qui donne des forces, qui donne la santé. C'est de voir qu'il y a des formes qui ont été produites, qu'il y a eu un travail sur ces formes. Elles n'ont pas été données, mais elles se sont mises à fructifier ensemble aussi.
Dans un instant, nous serons sur un champ de bataille du 15e siècle. Le temps d'écouter Johann Papa Constantino, Pourquoi tu cries?
Arrête de faire ça. J'imaginais qu'on aurait pu se retrouver, mais on s'est perdu.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Claro. Vous avez choisi comme tableau anti-spleen l'un des panneaux du triptyque dédié à la bataille de San Romano de Paolo Uccello, qui était surnommé Uccello Oiseau pour son étourderie. Ce sont les trois scènes d'une même bataille qui opposa les Florentins aux Siennois le 1er juin 1432, rappelez-vous Claro. Les batailles sont dispersées dans trois musées différents. Vous avez choisi celle qu'on trouve au Louvre, la contre-attaque décisive de Micheletto Attendolo da Cotignola. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce tableau et nous dire ce qui résonne chez vous quand vous le contemplez ?
Là, il se trouve que je l'ai sous les yeux et en plus je le regardais sans mes lunettes et du coup je retrouvais exactement en fait c'est l'avantage ce qui m'avait frappé la première fois que je l'avais vu. Je crois que c'était la première fois qu'un tableau m'inspirait littérairement et où je me disais tiens c'est quand même bizarre de voir quelque chose de pictural et que ça déclenche un désir d'écriture. C'est après avoir fait connaissance avec ce tableau que j'ai écrit mon premier livre Ezzelina, où il y a une bataille, une description avec des chevaux, et en fait je pense que tout le livre était écrit juste pour arriver à un moment à parler des sabots des chevaux, etc. C'est un tableau très connu avec structuré comme ça verticalement par des lances et qui est censé être une bataille, mais en fait au bout d'un moment, à force de regarder ce tableau, on ne voit plus tellement une bataille. Je pense qu'on voit un pur travail des formes. C'est-à-dire les lances ont un impact visuel complètement terrifiant. Ça forme un arrière-fond. Et moi, du coup, après en voyant cette espèce de drap de lances dressées comme ça, ça me fait penser à un autre peintre et à un autre tableau, le pape peint par Francis Bacon, où il y a toujours ce travail sur un fond qui va être strié ou déchiré, mais en tout cas très fortement structuré. Voilà. Et Bacon aussi fait partie des peintres qui font cette chose toujours très mystérieuse. Pourquoi ? Ça peut être une chanson, une musique, qui peuvent déclencher l'écriture. C'est-à-dire que quand il y a la forme est tellement forte que elle déclenche un besoin de générer des formes soi-même. Into which you melt a pound or two of butter, fat or lard, then brown in the oven. La recette du plum pudding, interprétée par la mezzo-soprano Jenny Tourelle, accompagnée au piano par le compositeur du morceau, Leonard Bernstein, extrait de La Bonne Cuisine. 4 recettes pour voix et piano, c'est choisi pour illustrer l'activité qui vous réjouit. Claro, c'est cuisiner, et vous dites d'ailleurs dans une interview, l'écriture est avec le sexe, et sans doute la cuisine, une des façons les plus excitantes de dire, faire plusieurs choses à la fois. Et c'est ce que vous venez de dire juste avant qu'on entende ce morceau. La cuisine... C'est quelque chose d'assez fascinant parce que ça oblige à faire des tas de gestes qu'on ne fait pas en général. Ça oblige à toucher un nombre de textures absolument incroyables. On peut aussi goûter ce qu'on est en train de cuisiner. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'adore. Quand on écrit, on est assis. Et la cuisine, c'est vraiment quelque chose qui se fait debout. Enfin, je sais qu'on peut préparer des choses assises, mais pour moi, c'est vraiment, c'est pas un sport, hein, mais ça se fait debout. Et voilà, et ça produit quelque chose de mentalement qui est toujours, je n'arrive jamais à savoir quand je cuisine si je suis en train de penser ou pas. Je sens bien qu'il y a des choses qui se passent, mais c'est toujours finalement ça se mélange dans les choses qu'on prépare, que ça soit. Mais moi, enfin voilà, je sais pas, c'est une activité, j'y consacre au moins 3 heures par jour et ça me.
Ah oui, c'est beaucoup.
Voilà, c'est un remède à une mélancolie que je ne connais
vous
pas
n'avez
en plus.
Pas. Et dans votre dernier roman, Claro, Substance, c'est très présent la cuisine. Il y a la tante du héros qui mijote. C'est un peu une obsession qu'elle a, des plats qui sont à la fois effrayants et très alléchants. Ce sont de vraies recettes que vous
mentionnez ? Non, c'est vraiment Et les plats qu'elle fait sont que des plats de mots, en fait, qui permettent de lire. Bon, après, on peut avoir une idée que si c'était vraiment cuisiné, ça serait absolument dégueulasse. Mais c'est aussi lié chez moi à une énorme angoisse. C'est-à-dire qu'autant la cuisine, c'est un plaisir absolu, le moment de cuisiner, ça peut être épluché, etc. Autant, le moment où l'autre va manger votre cuisine, c'est un moment de totale angoisse. Parce qu'en fait, vous passez... mais c'est un peu comme quand on écrit. Hein. On peut passer 5 ans sur un livre et puis les gens vont le bouffer en 10 minutes. Et puis des fois, ils vont faire autre chose en même temps. Donc, ils vont faire aucun commentaire sur ce que vous avez préparé. Donc là, vous avez juste envie de vous sauter par la fenêtre. Ou alors, ils vont pas aimer, ils vont vous le dire ou pas oser vous le dire. Enfin bon, c'est toujours un... Voilà. Et ça, voilà, c'est un peu la même chose qui se passe quand on écrit des livres. Enfin, des fois, il y a des gens, ils osent pas trop vous dire s'ils ont goûté jusqu'au
tout ça a l'air parfaitement terrifiant. Alors, bon, chers auditeurs, il faut lire Substance de Claro pour découvrir le tagine d'épinards à l'anis en croûte cuit au jus de badiane qui a quand même l'air assez alléchant. Claro, merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
Merci.
Votre dernier roman est paru aux éditions Actes Sud. Je rappelle le titre Substance. On peut lire vos textes autour de la traduction et de l'écriture et de la littérature sur votre site Le Clavier Cannibale et dans deux recueils les rassemblant aux éditions Inculte. Vous avez des chroniques aussi dans le monde des livres ?
Non, c'est fini, maintenant c'est fini. Camille Laurence.
Ah, c'était jusqu'à cet été ?
Oui.
Eh bien, je me suis trompée, autant pour moi, TEMPS. Chers auditeurs, la programmation musicale Les Remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. J'espère que vous avez l'enthousiasme d'un flageolet folk. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h.